Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin sur Radio Classique. La réforme des retraites, donc, est-ce le début d'une sortie de crise? C'est en tout cas un tournant. Dans un courrier envoyé donc samedi aux partenaires sociaux, le gouvernement propose de retirer du projet de loi la mise en place d'un âge pivot dès 2022 et il leur laisse le soin de trouver les mesures pour atteindre l'équilibre financier du régime d'ici 2027. C'est un acte de confiance, commentait hier soir sur France 2 Édouard Philippe.
Ce qui compte, c'est pas l'instrument, c'est l'objectif, c'est l'équilibre. Moi, je salue l'esprit de responsabilité de Laurent Berger et de l'ensemble des responsables d'organisations syndicales qui, avec lui, ont dit « il faut revenir à l'équilibre dans le calendrier du projet de loi, nous allons faire des propositions ». Chacun a bougé, mais l'équilibre, le principe et la façon dont on l'obtiendra n'est pas négociable.
Alors concrètement, les partenaires sociaux se réuniront donc en avril en conférence sur l'équilibre et le financement des retraites. Ils auront un mois environ pour formuler des propositions avant la deuxième lecture du projet de loi au Parlement. S'ils y parviennent, s'ils trouvent un accord, celui-ci sera transcrit dans la loi par ordonnance. Mais syndicats et patronats parviendront-ils à s'entendre? Le cadre est en effet très contraint. Écoutez Raymond Soubi, il est l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, actuel président du groupe de conseil Alixio.
La conférence sur le financement suppose que tous les acteurs soient d'accord. Il n'y a à la fois pas beaucoup de solutions et quand même quelques solutions. Vous avez retardé l'âge de départ à la retraite. Ça a été formellement écarté par Emmanuel Macron. Vous avez un substitut qui est l'âge pivot. Puis vous avez les autres mesures qui consistent à augmenter les cotisations ou de baisser les pensions. Ça, c'est exclu. Donc, en fait, il n'est pas impossible de prendre des petits bouts de chacune de ces solutions, je crois que c'est pas extraordinairement difficile.
Voilà, le fameux donc cocktail, Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Alors, précision importante, hein, l'âge pivot à ce stade, en réalité, n'est pas totalement retiré. Il est, en tant que mesure d'urgence, dès 2022, mais est maintenu dans le projet de futur régime universel pour les départs à compter de 2037. D'ailleurs, dans un document diffusé vendredi, Matignon livre des projections. En 2027, un âge d'équilibre à 64 ans, avec une décote de 5%, rapporterait 12 milliards par an, avec les dérogations qui sont liés notamment à la pénibilité. C'est en cours de négociation. 37% des assurés seraient exemptés de cet âge pivot. Le second tiers, lui, perdrait au change en devant partir 2 ans plus tard qu'aujourd'hui. Mais le dernier tiers d'assurés pourrait partir, lui, grâce à l'âge pivot, jusqu'à 3 ans plus tôt. 64 ans au lieu de 67, hein, ce qui est 67 ans, c'est aujourd'hui l'âge d'annulation de la décote. Et cela concerne surtout les petits revenus, hein, les carrières hachées, avec notamment des périodes de chômage. Alors concernant la grève, maintenant, eh bien, elle continue. Les réformes adhèrent certes au compromis du gouvernement, mais les contestataires CGT et Force ouvrière en tête, eux, ne désarment pas. Demain, mardi, nouvelle journée d'action interprofessionnelle. Et dès aujourd'hui, la CGT de la Banque de France appelle à la grève. Objectif, bloquer la distribution de billets de banque. Écoutez Pascal Gabet, c'est le délégué central adjoint CGT de la Banque de France.
On pourrait se retrouver avec, assez vite, des distributeurs automatiques de billets à sec. Parce que les banques, ça leur coûte cher de détenir des espèces, des billets, donc elles en ont toujours très peu d'avance. Et donc, si nous, on interrompt les flux, assez vite, il peut y avoir une pénurie qui s'installe. C'est nous qui approvisionnons les convoyeurs de fonds qui, après, approvisionnent les distributeurs. On est dans le cadre d'aimerait de faire avec le gouvernement. Donc, notre objectif, c'est de contraindre le gouvernement de faire monter la pression. On peut pas laisser le poids de la bataille au seul cheminot et au seul RATP. Donc, de nombreux secteurs se sont mis dans l'action, en particulier le pétrole, parce qu'ils ont une possibilité de bloquer. Mais nous aussi, nous avons une possibilité de bloquer. Eh bien, on décide d'entrer dans la danse et de s'y mettre et de tout bloquer.
Voilà, Pascal Gabel, délégué central adjoint CGT de la Banque de France.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Il est 6h43. Il parle et il lance l'offensive. Selon le Figaro, Carlos Ghosn a saisi en référé fin décembre les prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour faire valoir ses droits à la retraite chez Renault. Carlos Ghosn conteste avoir démissionné l'an dernier. Il estime que le constructeur cherche à le priver de ses droits à la retraite, 770 000 euros par an, ainsi que de ses actions de performance. Une première audience aura lieu fin février. Pendant ce temps-là, au Japon, Nissan cherche à briser l'alliance avec Renault. C'est quasiment officiel. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Selon le Financial Times ce matin, les Japonais ont un plan pour reprendre leur indépendance, alors au moins sur le plan technologique.
Voilà, c'est en tout cas, selon le quotidien britannique, la volonté de certains cadres supérieurs de Nissan. Certains d'entre eux verraient d'un bon œil la reprise en main par le constructeur japonais de tout ce qui concerne l'ingénierie et la fabrication. Nissan et Renault travailleraient alors chacun de leur côté. Des projets sont dans les cartons, leur mise en application s'annonce toutefois compliquée. Les liens entre les deux groupes sont difficiles à défaire. Certaines fonctions sont désormais totalement communes aux deux sociétés. Il sera délicat de faire marche arrière, surtout face à des concurrents comme PSA et Fiat Chrysler qui unissent leurs forces. Dans les semaines qui viennent, Jean-Dominique Senard, président de Renault, devrait dévoiler de nouveaux projets avec Nissan. Il s'agit pour lui de montrer que l'alliance est désormais sur les bons rails. Selon le Financial Times, sa tâche s'annonce compliquée car dans les rangs de Nissan, eh bien la confiance est loin d'être restaurée.
Merci Eric Mauban. Enfin, aux États-Unis, Boeing change de pilote, déjà privé du poste de président en novembre. Dennis Muilenburg cède ce lundi en pleine crise du 737 Max son fauteuil de directeur général de l'avionneur. Son remplaçant s'appelle David Calhoun. Il devient le 11e patron de Boeing depuis la naissance du groupe en 1916. Céline Cajoulis.
David Calhoun n'est pas du tout un spécialiste de l'aéronautique, c'est surtout un financier. Il a passé 26 ans chez GE, avant de rejoindre l'institut de sondage Nielsen, puis la société d'investissement Blackstone. Mais depuis 10 ans, il est au conseil de Boeing, même s'il n'avait aucun rôle opérationnel. Sa principale priorité aujourd'hui, c'est de redonner confiance. Confiance aux compagnies, qui demandent des compensations financières parce que leurs 737 Max sont toujours cloués au sol, voire qui annulent des commandes. L'an dernier, pour la première fois depuis 2012, Airbus est repassé devant l'américain. Confiance aussi aux clients qui, depuis les révélations en cascade sur les pratiques en matière de sécurité de Boeing, se demandent si les avions sont bien fiables, voire qui refusent de monter à bord. Confiance enfin aux régulateurs du monde entier qui délivrent les autorisations de vol, en commençant par la FAA, l'autorité américaine, qui vient d'annoncer qu'elle voulait infliger à Boeing une amende de 4 800 000 euros pour montage de composants défectueux sur les 737 Max.
Céline Cajoulis, on va sur les marchés.
La bourse avec placementdirect.fr. L'assurance vie en ligne à frais réduits.
Le CAC 40 stable à la clôture vendredi pour terminer la semaine, moins 0,09%, 6037 points sur la semaine. L'indice parisien 7,012%. Les tensions États-Unis-Iran sont repassées au second plan pour les investisseurs. On va en revanche beaucoup reparler cette semaine de l'accord commercial préliminaire Chine-États-Unis. La signature est programmée mercredi à Washington. En tête de l'indice vendredi, Veolia qui gagnait 2,48%. Hors CAC, je vous signale aussi Orchestra, les vêtements pour enfants. Le titre rebondissait de 63%, le titre qui séduit à nouveau grâce à des ventes en hausse, et c'est bon signe pour l'entreprise qui était placée fin septembre en procédure de sauvegarde. Pour 6 mois, Wall Street, le Dow Jones lui a terminé à 28 823 points, moins 0,46%. Dans un instant, focus sur l'attractivité industrielle de la France.